au cœur de l'info. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, merci de démarrer votre journée sur VOA Afrique. Au micro, Nicolas Pineau et Anne Albertson, à la une de notre émission ce matin.
Grippe aviaire au Burkina Faso. À son tour, le Mali interdit l'importation de volailles et de viande en provenance de Ouagadougou.
Interpellation d'anciens proches de Blaise Compaoré. Les partisans du président déchu dénoncent une chasse aux sorcières.
Cette loi ne fixe pas les délais, les temps du soutien. Alors donc, ça veut dire que toute la classe politique peut aller se reposer et que l'on crée une nouvelle classe politique. Nous trouvons que ce n'est pas le rôle d'un projet de loi du gouvernement.
Interrogation et suspicion à Kinshasa. Après la découverte d'une fosse commune, les ONG de défense des droits de l'homme demandent une enquête internationale indépendante.
Dans la ville de Kinshasa, il y a de plus en plus de personnes qui disparaissent et dont on ne sait pas exactement le sort.
Comme tous les matins, vos rendez-vous habituels, la Minute Écho et le journal des sports, le Congolais Dikembe Mutombo entre au Hall of Fame, le temple des meilleurs joueurs de basket NBA. Mais tout d'abord, sur VOA Afrique, le journal.
Au Burkina Faso, un nouveau code électoral sera voté ce mardi par le Conseil national de la transition à Ouagadougou. Coïncidence ou non, hier, plusieurs membres du CDP, le parti de Blaise Compaoré, ont été interpellés par les forces de sécurité. Parmi eux, Salia Sanou, l'ancien maire de Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays.
Hier soir, les autorités burkinabées n'avaient pas donné leur raison de ces interpellations. Pourtant, dès dimanche, le ministre de l'administration du territoire, Auguste Denis Barry, avait menacé dans un communiqué toute personne qui voudrait troubler l'ordre public. Pour une réaction, écoutons Léon Skoné, le président du directoire du CDP.
Jean-Bertin Ouédraogo, qui était ministre des infrastructures du gouvernement de Blaise Compaoré, des années gouvernement, a été interpellé. Dans le domaine de Salam Dermé, le responsable des jeunes du CDP, et de l'ancien maire de Bobo-Dioulasso, Salia Sanou, d'un maire d'arrondissement à Bobo-Dioulasso. Donc il semble y avoir une vague d'arrestations, d'interpellations de membres de la direction du CDP. Cela m'inquiète naturellement, oui, parce qu'il s'agit de mesures de privation de liberté, sans chef d'accusation, sans que la procédure passe devant un juge, comme le prévoit nos lois. Tout cela est tout à fait arbitraire, et donc évidemment cela m'inquiète. Il y a un net recul de la démocratie, il y a une espèce de fièvre que je ne m'explique pas du tout, qui semble s'emparer des autorités de la transition, et donc je trouve cela vraiment regrettable. J'espère qu'ils vont se ressaisir et revenir à l'application de ce qu'eux-mêmes ont décidé. Une transition inclusive qui associe tous les Burkinabés, quelle que soit leur obédience politique, aux prochaines échéances électorales.
Léon Skoné du CDP, il était joint par Bagassi Koura.
Mauvaise nouvelle pour les professionnels de la viande au Burkina. Le Mali suspend à son tour toute commercialisation de viande et de volaille en provenance du Burkina Faso. En cause, l'épidémie de grippe aviaire qui perdure côté burkinabé de la frontière.
Première nuit de liberté pour le Néerlandais libéré hier par l'armée française. Chaque Rishke, otage d'Al-Qaïda au Maghreb islamique depuis novembre 2011, a été libéré hier à l'aube par des soldats des forces spéciales françaises lors d'une opération dans l'extrême nord du Mali.
Et on reste au Mali. Trois hommes armés ont tué hier un agent des eaux et forêts dans la localité de Diafarabé, située à mi-chemin entre Mopti et Ségou. Écoutez ce témoignage d'un habitant de Diafarabé qui préfère garder l'anonymat par crainte de représailles.
Il y a trois individus qui arrivent sur une moto. Ils étaient habillés en costume pull. Ils avaient des mitrailleuses sous les costumes. Une fois descendus, ils ont enlevé les fusils qui étaient cachés sous leur tenue pour les charger. Une fois descendus, ils ont chargé le fusil. L'un d'eux s'est dirigé vers le bureau du monsieur qui était en entretien avec d'autres personnes. C'est le djihadiste qui a fait sortir les gens avec qui ils s'entretenaient. Quand ils sont sortis, ils ont commencé à tirer sur l'agent des eaux et forêts. Ils l'ont criblé de balles. Nous sommes surpris. Pour la première fois, Diafarabé a été attaqué et surtout par des djihadistes. J'ai vraiment peur. Au moment où je vous parle, je ne suis même pas chez moi. J'ai fait déplacer toute ma famille dans un endroit sûr.
Un habitant de Diafarabé, joint par Claire Morin-Gibourg.
Troisième et dernier jour du deuil national après le massacre à l'université de Garissa. Hier, l'aviation militaire kényane a bombardé en Somalie deux camps des Shabab qui ont revendiqué, je vous le rappelle, cette attaque ayant fait 148 morts. Les deux camps ont été détruits, c'est ce qu'assure le porte-parole de l'armée kényane. Ce mardi à Garissa, une manifestation est prévue pour protester contre l'incapacité du gouvernement kényan à protéger la population. Une veillée sera organisée dans la soirée en la mémoire des victimes.
Le ministère de la Santé au Sierra Leone indique qu'un bébé de 9 mois est mort du virus Ebola dans la région d'où était partie l'épidémie dans le pays. Le district de Kailahun, dans l'est du pays, n'avait pas vu de nouveaux cas depuis plus de 3 mois et avait été déclaré débarrassé d'Ebola, ce qui représentait un succès majeur dans la lutte contre la maladie. L'épidémie a débuté en décembre 2013 en Guinée avant de se propager au Libéria et en Sierra Leone, faisant plus de 10 400 morts, essentiellement dans ces trois pays.
Impasse au Mozambique, le dialogue entre le gouvernement et l'ex-guérilla de la Renamo est bloqué. Les deux parties s'accusent mutuellement d'échanges de tirs dans le sud du pays.
Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, qui préside également l'Union africaine et la Communauté de développement d'Afrique australe, entame une visite officielle en Afrique du Sud. Il aura des entretiens avec son homologue sud-africain, Jacob Zuma, demain à Pretoria.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, nouveau combat dans le sud du Yémen entre les rebelles chiites et partisans du président en fuite en Arabie Saoudite. Hier, au 12e jour de l'opération de la coalition militaire menée par Riyad, les combats ont fait plus de 140 morts. La situation humanitaire s'aggrave d'heure en heure dans le pays où les hôpitaux, faute de médicaments, ne peuvent plus soigner les blessés qui se comptent par centaines. Mais aucune aide n'arrive de l'extérieur. Le comité international de la Croix-Rouge a fait état de problèmes logistiques pour acheminer son aide.
L'administration Obama s'oppose à la levée des sanctions sur l'Iran dès l'entrée en vigueur de l'accord nucléaire potentiel. C'est ce qu'a indiqué la Maison-Blanche, Nathalie Barge.
Le porte-parole de la Maison-Blanche, Josh Earnest, a déclaré lundi que les parties impliquées dans les négociations doivent encore discuter des dates de levée des sanctions.
It is the strong view of the administration.
Pour l'administration, il est évident qu'il ne serait pas raisonnable et non plus dans l'intérêt de la communauté internationale de simplement lever toutes les sanctions dès le premier jour. Nous estimons par expérience avec l'Iran qu'il est préférable d'avoir un moyen d'incitation pour que Téhéran se conforme à l'accord. C'est pourquoi nous pensons que cette forme d'approche progressive est la meilleure. Et c'est certainement en ce sens que nous allons insister, a déclaré M. Earnest, précisant que le président Barack Obama pourra revenir sur les sanctions si les Iraniens ne respectent pas les termes de l'accord. Suite à l'accord cadre conclu la semaine dernière avec 6 puissances mondiales, Téhéran espère la levée rapide des sanctions qui ont paralysé son secteur pétrolier et ses industries financières. Les négociateurs doivent travailler sur les détails d'un accord définitif dont la date limite a été fixée au 30 juin.
Et j'ajoute que Barack Obama refuse que la reconnaissance d'Israël fasse partie de l'accord sur le nucléaire iranien. Le président américain a estimé que demander à l'Iran de reconnaître l'État d'Israël dans le cadre de l'accord sur son programme nucléaire serait une erreur de jugement fondamentale.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a réclamé lundi que les agences humanitaires puissent avoir accès aux 18 000 Palestiniens bloqués dans le camp de Yarmouk en Syrie pour leur fournir une aide vitale et assurer leur évacuation en toute sécurité. Ce camp est assiégé notamment par le groupe État islamique. Michel Joseph.
À l'issue de consultations à huis clos, la présidente du Conseil, la Jordanienne Dina Kawar, a ajouté, sans autre précision, que les 15 pays membres du Conseil sont prêts à envisager les mesures supplémentaires qui pourraient être prises afin de fournir la protection et l'assistance nécessaires aux Palestiniens de Yarmouk. Les membres du Conseil ont condamné le plus fermement possible les graves crimes commis à Yarmouk par le groupe État islamique et le front Al-Nusra et ont souligné la nécessité de punir ces crimes, a ajouté la représentante permanente de la Jordanie. Le groupe État islamique a lancé la semaine dernière une offensive sur le camp avec l'aide de djihadistes du front Al-Nusra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ils en contrôlent désormais une grande partie, selon l'AFP, mais dans le même temps, l'armée syrienne a renforcé son siège autour de Yarmouk et mène des raids aériens réguliers sur le camp.
Aux États-Unis, les jurés débuteront tout à l'heure leur délibération dans le procès des attentats du marathon de Boston. Zohar Tsarnaev risque la peine capitale pour ces attentats qui avaient fait en avril 2015 3 morts et 264 blessés.
Raúl Castro et Barack Obama vont se rencontrer en fin de semaine en marge du sommet des Amériques. C'est ce qu'a laissé entendre à l'AFP Ricardo Zuniga, responsable du continent américain au sein du Conseil de sécurité nationale. Il y aura une sorte d'interaction, a-t-il ajouté, sans plus de précision. Le sommet des Amériques qui débute vendredi intervient après l'annonce historique le 17 décembre dernier de la reprise des relations diplomatiques entre Washington et La Havane après un demi-siècle de tensions.
Un juge américain de Caroline du Nord a décidé que la peine de mort pouvait être requise contre l'homme suspecté d'avoir tué par balle 3 étudiants musulmans dans la ville universitaire de Chapel Hill. La police n'a pas encore déterminé si les victimes du tireur Craig Hicks ont été tuées à cause de leur religion ou suite à une querelle de voisinage. C'est l'heure de la Minute Écho sur VOA Afrique. Nous retrouvons ce matin Félix Yepassi Zemrou.
En Libye, le gouvernement reconnu par la communauté internationale a autorisé la nouvelle compagnie nationale de pétrole, NOC, à commencer à exporter du brut, a-t-il annoncé dans un communiqué. Cette nouvelle compagnie, créée en mars, fait concurrence à l'ancienne NOC, basée à Tripoli et sous le contrôle des miliciens de Faj Libya qui ont pris la capitale l'été dernier. Le gouvernement entend ainsi commencer à collecter lui-même l'argent du pétrole, ressources essentielles de l'économie libyenne. Création d'une chambre de commerce Cameroun-Suisse. Cette structure consulaire sera basée à Douala, la métropole économique, a révélé Claude Alterman, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Suisse au Cameroun. La naissance de la chambre de commerce intervient au terme des échanges entre les deux parties sur le thème balance commerciale Suisse-Cameroun, échanges, obstacles et solutions. Les pays africains producteurs de pétrole ont appelé vendredi à Abidjan à une baisse globale de la production de l'or noir afin de stabiliser les cours sur le marché mondial dont la chute impacte négativement leurs économies. Au terme de 2 jours de réunion, les ministres des 18 pays membres de l'Association des producteurs du pétrole africain, APPR, ont, dans une déclaration finale, soutenu la création d'une plateforme afin de réduire la production pétrolière et de stabiliser le marché pétrolier. La chute des cours met à mal les économies des pays avec des risques de crise sociale si elle devait se poursuivre encore longtemps, a déclaré Ousmane Doucouré, un cadre du ministère ivoirien du pétrole qui a lu la déclaration finale.
Merci Félix pour cette Minute Écho. On passe au Journal des Sports. Et nous accueillons pour en parler ce matin Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Nicolas.
Bagassi, on commence par des nouvelles des étalons juniors du Burkina Faso.
Oui, ils sont en préparation pour le match retour des éliminatoires des Jeux africains de Brazzaville le samedi prochain. Ils seront reçus à Abidjan par les éléphants. Des échos de cette préparation avec Salif Kabore à Ouagadougou.
À l'aller ici à Ouagadougou, les Burkinabés avaient remporté le match par 2-1. À Abidjan, la tâche ne sera pas du tout facile et l'entraîneur des étalons en est conscient, Issa Balboné.
Il va falloir devancer l'adversaire au score et c'est ça notre ambition aujourd'hui. Pas question d'aller défendre Abidjan, il va falloir attaquer.
Pour marquer des buts, il faut être fort offensivement. Pour Issa Balboné, le groupe ne sera pas au grand complet.
C'est pas la journée FIFA, donc les clubs vont pas accepter de libérer les enfants. Et nous allons faire avec les moyens de bord. Et nous comptons beaucoup sur les locaux pour pouvoir vraiment arracher la victoire à Abidjan. Mais nous avons l'apport de certains expatriés, tels que Yannou qui est en Égypte, et Faisal Ouedraogo qui est à Brest en France, et de Soko qui joue dans le championnat ivoirien, qui connaît très bien les éléments. Et je pense qu'avec ces 3 éléments, nous pouvons faire beaucoup de choses.
Les Burkinabés quittent en principe ce jeudi pour Abidjan.
Ouagadougou, Salif Kabore, VOA Afrique.
Un mot de Première Ligue anglaise pour vous dire que Manchester City a fait la mauvaise opération de la 31e journée. Défaite 2-1 sur la pelouse de Crystal Palace. Les Citizens sont désormais 4e au classement. La Confédération africaine de football, elle a procédé au tirage au sort du championnat d'Afrique de beach soccer.
Oui, la compétition se tiendra du 14 au 19 avril aux Seychelles. Et dans le groupe A, on aura les Seychelles, pays organisateur, le Nigeria, l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Dans le groupe B, ce sera le Sénégal tenant du titre face au Maroc, le Ghana et Madagascar. Et Nicolas, pour terminer, la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Un seul match hier soir, Bagassi. Brooklyn s'impose sur son parquet face à Portland, 106-96.
Les Nets conservent leur 7e place de la conférence Est qualificative pour les playoffs. Hier, la NBA a aussi annoncé que l'ancien joueur de Denver, Atlanta et Houston, Dikembe Mutombo, faisait partie de la promotion 2015 du Hall of Fame, le temple de la renommée qui distingue les plus grandes gloires du basketball. Mutombo, aujourd'hui âgé de 48 ans, a été élu durant sa carrière meilleur défenseur de NBA à 4 reprises et a participé à 8 reprises au All-Star Game. Le Congolais Mutombo a joué en NBA de 1991 à 2009. Il a notamment inscrit 11 729 points. Ainsi s'achève le journal des sports avec Bagassi Koura. Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui, la deuxième partie de notre émission. Et cette question ce matin, que s'est-il vraiment passé à Kinshasa? C'est la question que beaucoup se posent dans la capitale congolaise après la découverte de centaines de cadavres dans le cimetière de Foulafoula, dans la commune de Maluku. Le gouvernement congolais affirme qu'il s'agit de personnes indigentes que la mairie de Kinshasa a fait enterrer. Mais pour les défenseurs congolais des droits de l'homme, il faut une enquête internationale indépendante pour vérifier si ces cadavres ne sont pas ceux de personnes abattues par le régime Kabila lors des manifestations de janvier dernier. Eddy Sango a joint à Kinshasa, le président de l'Association africaine pour la défense des droits de l'homme, maître Jean-Claude Katende.
Dans la ville de Kinshasa, il y a de plus en plus de personnes qui disparaissent et dont on ne sait pas exactement le sort. En sorte qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent que les corps qui ont été découverts sont soit liés à l'opération du Kofi qui était intervenue l'année passée, soit aux tueries qui étaient intervenues au mois de janvier de cette année. Alors, pour dissiper tous ces malentendus, pour dissiper toutes ces informations contradictoires, nous pensons qu'il faut qu'il y ait une enquête indépendante qui puisse faire exhumer les cadavres et éventuellement déterminer les conditions dans lesquelles ces personnes sont mortes.
Est-ce que ces fosses communes sont accessibles aux défenseurs des droits de l'homme ou même à la population?
Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur nous a dit que le gouvernement était en train de finaliser son rapport et que la justice était en train de continuer les enquêtes pour produire aussi un rapport. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, comme la justice est en train de faire des enquêtes sur cette fosse commune, je ne pense pas qu'elle soit accessible encore.
Pour la mission des Nations Unies, il s'agirait de personnes qui ont été tuées lors des événements du 19 janvier de cette année. Est-ce que vous êtes de cet avis?
La MONUSCO s'était rendue à la fosse commune et de là, elle a fait remonter l'information jusqu'au niveau du procureur pour qu'on enquête. Mais il faut noter que jusqu'à présent, il y a des informations contradictoires. Même la MONUSCO s'est prononcée dans le sens de dire qu'il faut qu'on attende les rapports qui ont été promis par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur pour voir exactement de quoi il est question. Mais compte tenu du fait qu'on retrouve dans une fosse commune plus de 400 personnes et quand on sait que la morgue de l'hôpital Mama Yemo ne peut pas contenir autant de gens et que aussi la mairie de Kinshasa n'a pas fait de communiqué pour appeler soit les personnes qui auraient constaté la disparition de leurs proches pour venir identifier les corps, il y a quand même des interrogations qui demeurent et qui vont dans le sens de ne pas croire dans la version qui a été donnée par le gouvernement.
Depuis Kinshasa, le défenseur congolais des droits de l'homme, Jean-Claude Katende.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Un nouveau code électoral sera voté ce mardi par le Conseil national de la transition à Ouagadougou. L'article 37 refait parler de lui. Faut-il exclure ou non ceux qui ont soutenu la modification de cet article qui aurait permis en cas de succès à Blaise Compaoré de briguer un nouveau mandat? Les anciens alliés politiques du président déchu dénoncent leur exclusion politique. Le point avec notre correspondant au Burkina, Zoumana Wonoko.
La transition burkinabé est loin d'être un long fleuve tranquille, chose qui a poussé le premier ministre Yacouba Isaac Zida à sortir il y a quelques jours pour faire une déclaration.
La tournure prise par les événements ces derniers temps, à travers des mouvements de grève, des revendications intempestives, des entraves à la liberté de circuler, indique clairement que l'on veut empêcher le gouvernement de travailler et à terme les élections de se dérouler. C'est pourquoi le gouvernement appelle au discernement et à la vigilance de tous, afin de contrer ceux qui tentent de greffer à la légitime insurrection de notre peuple leur agenda égoïste. En tout état de cause, c'est avec fermeté et responsabilité qu'il s'opposera désormais à toute tentative de déstabilisation, d'où qu'elle vienne.
Le point culminant de cette tension politique est le vote ce mardi de la loi sur le nouveau code électoral. Mamadou Bennon, secrétaire à l'organisation de la NAFA, Nouvelle Alliance du FASO, se prononce contre.
Ce projet de loi est un véritable coup d'État contre la démocratie. Parce que la loi dit ceci. Tous ceux soutenus ouvertement la modification de l'article 37 ne peuvent pas prendre part aux élections. Cette loi ne fixe pas les délais, les temps du soutien. Alors, donc, ça veut dire que toute la classe politique peut aller se reposer et que l'on crée une nouvelle classe politique. Nous trouvons que ce n'est pas le rôle d'un projet de loi du gouvernement.
S'il y a exclusion, assure Mme Safiatou Lopez, elle se base sur la charte de l'Union africaine.
Je suis désolée qu'il y ait cette incompréhension-là, que certaines personnes pensent que c'est de l'exclusion. Nous avons accepté l'inclusion, oui, mais nous n'avons pas accepté l'impunité aussi. Vous verrez bien que c'est Blaise Compaoré lui-même qui a ratifié ces textes-là, et qui veut dire que nous sommes dans la logique de ces textes-là. Ce n'est pas le gouvernement de la transition qui a ratifié ces textes, et son article 25 les exclut. Donc ce n'est pas nous, il n'y a rien de nouveau. Ils savent très bien qu'ils sont exclus par ces textes-là même que leur mentor Blaise Compaoré avait ratifié.
Pour Marcel Tankouanou, le président du M21, il faut s'en tenir à la charte de la transition burkinabé.
La charte dit tout simplement que tous ceux ayant appartenu au dernier gouvernement de Blaise Compaoré sont immédiatement suspendus, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être candidats de la même année. Il se trouve qu'il y a deux partis, le parti de Djibril Bassolé, NAFA, la Nouvelle Alliance du FASO, et puis il y a le parti du colonel Yacouba. Ils étaient au dernier gouvernement de Blaise Compaoré. Mais ils se retrouvent là pour être candidats cette même année, alors qu'ils appartenaient au gouvernement Dichy. Il n'y a pas de possibilité.
Le ministère de la Sécurité a procédé à des arrestations préventives chez ceux qu'on soupçonne d'être des troubleurs. Zoumana Ounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
Croissance fulgurante de la finance islamique dans le monde. Ce secteur doit être mieux régulé et harmonisé pour poursuivre son développement. C'est ce que pense le Fonds monétaire international dans un rapport. Pour plus d'explications, Jean-Roger Billon a joint Abdeslam Aboudrar. Il est le président de l'instance de lutte anticorruption au Maroc.
Ce qui était valable au 7e siècle peut ne plus l'être. Prêter de l'argent contre un intérêt, c'était de l'usure. Aujourd'hui, prêter de l'argent contre un taux d'intérêt est presque obligatoire. C'est indispensable parce qu'il y a l'inflation, il y a le service, il y a énormément de choses, il y a le risque. Et l'intérêt compense. L'intérêt n'est pas de l'usure. Donc déjà, quant au fond, il y a une divergence. Maintenant, chaque tendance de l'islam, et Dieu sait qu'il y en a énormément, qu'il y en a toujours eu depuis la naissance de l'islam, interprète à sa manière les préceptes, et d'où je comprends que le FMI s'alarme du fait que c'est très disparate et qu'il faut mettre de l'ordre dans tout cela, parce qu'il faut sécuriser tout cela, il faut réguler. De la même manière qu'on régule l'activité financière profane, normale, on doit réguler l'activité financière islamique et faire en sorte qu'elle soit soutenable, qu'elle puisse durer quoi, dans le temps. D'autant que globalement, jusqu'à aujourd'hui, la finance islamique, disons le crédit en finance islamique, est plus cher que le crédit en finance classique, parce qu'il y a une prise de risque.
Comment la finance islamique pourrait promouvoir la stabilité sur le plan macroéconomique et financier?
Il n'y a pas plus de finance islamique que de géométrie islamique ou de mathématiques islamiques. La finance, c'est la finance, et obéit aux règles du monde financier, parce que quand on fait de la finance islamique, on ne le fait pas dans une île isolée de tout, on le fait dans le village mondial. Et on est obligé de traiter avec la finance mondiale, y compris le Fonds monétaire, y compris des institutions financières internationales. On appelle le capital étranger, etc. Donc il faut se rapprocher autant que faire se peut de la finance orthodoxe. Il n'y a pas d'autre solution. Maintenant, à charge pour tous ceux qui prônent la finance islamique de réunir tous ceux, ils ont en général des conseils en sharia compliance, la conformité à la sharia. C'est à ceux-là de faire preuve d'inventivité, de rapprocher leur point de vue pour se rapprocher autant que faire se peut de la finance orthodoxe qui a mis des siècles à se mettre en place, à mettre en place une gouvernance pour réguler la finance. Il faudrait que la même chose se fasse dans la finance islamique.
Abdeslam Aboudrar, économiste marocain.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Retour aux États-Unis, la Californie à sec. Cet état de l'Ouest américain connaît sa pire sécheresse depuis 500 ans. Eh bien, la Californie doit impérativement réduire sa consommation d'eau. La Californie, en effet, c'est cet état américain qui est contraint d'agir. Son gouverneur, Jerry Brown, a annoncé des mesures d'économie. Ce plan implique les collectivités, les entreprises et les citoyens et vise à réduire de 25% la consommation d'eau hors agriculture. Pour analyser ces mesures drastiques, Timothée Delangmaille a joint Edgar Colli, professeur à l'Université de Monterey.
Au niveau de la famille, on est obligé de changer certaines habitudes. Je commencerai par des choses aussi banales telles que prendre une douche. Il faudra quand même penser à toute cette eau qui coule. Ensuite, il y a des choses qui sont beaucoup plus visibles. Par exemple, on ne peut plus arroser la pelouse. Donc, le gazon qui était vert il y a quelques semaines tourne vers le brun. Il faut aussi, avec beaucoup plus de tension, regrouper le linge, n'est-ce pas? Au lieu de faire de petits groupements ici et là, on doit strictement faire attention. Ça, c'est bien entendu une discipline que nous nous sommes imposés nous-mêmes au niveau de la famille. Les voitures, bien, on ne peut plus les laver aussi régulièrement. Il faut peut-être trouver d'autres moyens de les nettoyer, etc.
Qu'en est-il de l'impact sur les entreprises, les compagnies californiennes?
Jusqu'à présent, je ne crois pas qu'il y ait un contrôle strict, mais la première chose que le gouverneur Brown a dit, c'est qu'il faut, n'est-ce pas, une certaine autodiscipline. Cela doit commencer par les individus. Mais le week-end passé, je suis passé devant un concessionnaire de voitures et ils étaient en train d'arroser. C'était vers 10h du matin, le soleil était déjà très haut. Et donc, il y a des gens qui semblent ne pas suivre de près les directives du gouverneur. Et je pense que c'est vraiment dommage parce que si on respecte ne serait-ce que la moitié des directives du gouverneur, cela ne devrait pas avoir un impact trop grave, surtout l'industrie agricole, parce que nous sommes ici dans un état qui produit beaucoup de légumes.
Dans ce contexte, une controverse a éclaté au sujet des agriculteurs californiens qui utilisent beaucoup d'eau pour l'irrigation de leurs champs, mais qui paient un tarif moins élevé que les autres utilisateurs.
Mais bien entendu, cela d'abord a une réalité politique, parce que ce sont de grandes surfaces quand même qui utilisent toute cette eau pour faire pousser toutes ces plantes. Et ils ont, je ne sais pas depuis combien d'années, maintenu le tarif de ces entreprises à un prix relativement bas, ce qui est quand même un peu injuste. Alors je ne sais pas si il y a une option pour redresser le prix que paye ces agriculteurs, mais on devrait peut-être commencer par là. Mais voilà, vous savez, quand on touche le côté agricole ici aux États-Unis, que ce soit en Californie ou ailleurs, on touche un grand monstre politique et donc les politiciens ont peur de s'attaquer à cela, mais je crois que dans le contexte de la Californie, quelque chose, en tout cas une mesure exceptionnelle doit être prise parce que ce sont les premiers utilisateurs de l'eau, les industries agricoles.
Le professeur Edgar Colli joint à Monterey en Californie.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, rap music, notre sujet dans Antenne Libre cette semaine. Pensez-vous que le sport peut être un outil au service du développement et de la paix? Le 6 avril est la journée mondiale du sport pour le développement et la paix. Cette journée veut célébrer le rôle du sport dans l'éducation, la santé et le développement humain. Et ses promoteurs souhaitent qu'il soit aussi ici l'occasion de rapprochement entre les peuples et les âmes. Et à ce titre, source de paix dans le monde. Vos points de vue, vos réactions cette semaine dans RM Show au 225-58-92-85-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-3140. RM Show, c'est chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Up. You can be anything in the world, and God we trust, an architect, doctor, maybe an actress, but nothing comes easy, it takes much practice. Like, I met a woman who's becoming a star, she was very beautiful, leaving people in awe, singing songs, Lena Horne, but the younger version, hung with the wrong person, got a stronger that...
C'est sur les paroles de Nas que va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson, Nicolas Pineau à la présentation. Excellente journée à tous. Avant de se quitter, saluons Ogé Nkazi à Kinshasa et Tanimoun Djibo à Niamey. Comme retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info.